Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un chaud devant festival international du film de fiction historique avec Ni Chaîne Ni Maître et Simon Montero. Bonjour Grégor.
Bonjour.
J'étais au Festival international du film de fiction historique comme chaque année. Et cette année, c'était la 10e édition. Bah oui, 10 ans. Joyeux anniversaire au festival et à toute l'équipe. Parce que franchement, vous nous avez offert une 10e édition du tonnerre. Et je vais pas mentir, j'ai vraiment apprécié la sélection, la compétition et aussi les invités du festival. Je voudrais parler d'un film qui vient de sortir ce 18 septembre 2024. Et oui, c'est la sortie ciné et un film qui était projeté au Festival international du film de fiction historique en présence du réalisateur Simon Montero et de l'acteur Félix Lefebvre. Mais de quoi parle ce film ? 1759. Île-de-France, actuelle Île-Maurice. Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larsenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie. Elle, de quitter l'enfer vert de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame la Victoire, célèbre chasseuse d'esclaves, est engagée pour la traquer. Massamba n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient un marron, un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre colonial. C'est un excellent coup de cœur. Non, c'est vraiment un magnifique coup de cœur pour ce film, Ni Chaîne Ni Maître. La réalisation est du tonnerre. Je vais pas mâcher mes mots, c'est vraiment excellemment bien fait. Que ce soit ses décors, que ce soit la fluidité des dialogues, que ce soit aussi ces images assez impressionnantes dans la forêt, les poursuites, et aussi cette scène avec les éclairs qui me restera, je pense, à vie dans le regard tellement elle m'a hypnotisée, tellement j'ai été captivée par l'action, par l'histoire et par le passé. Et oui, ça s'est vraiment produit en Île-de-France et en Île-Maurice. Donc, c'est l'histoire de France. Oui, une histoire qu'on ne nous conte pas. Et je suis ravie de pouvoir en parler avec le réalisateur Simon Montero. Bonjour Simon.
Bonjour.
On est au Festival international du film de fiction historique où vous venez présenter Ni Chaîne Ni Maître, un film qui vous tient vraiment à cœur.
Évidemment, c'est un film que je porte en moi depuis 15 ans, peut-être davantage inconsciemment. L'idée de proposer au public français un film sur le marronnage, sur l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont enfuis des plantations, qui ont brisé symboliquement leurs chaînes, qui ont résisté contre l'ordre colonial, c'est vraiment quelque chose qui manque, à mon sens, dans l'imaginaire artistique, cinématographique français. Déjà, il y a eu très peu de films sur l'esclavage, mais alors, il n'y a eu aucun film sur le marronnage. Et c'est vrai que la fierté, la résilience, le courage de ces hommes et de ces femmes, il y a 4 siècles, déjà, elle m'émeut. Et je pense que c'est un miroir incroyable pour notre époque, parce que cette capacité à s'affranchir de l'oppression, cette capacité à dire non quand des chaînes symboliques ou réelles nous entravent, je pense que c'est extrêmement précieux de nos jours et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire ce film.
Et puis, vous vous servez aussi d'histoire, de recherche que vous avez fait, parce que vous avez beaucoup travaillé, dont votre antagoniste, Victoire, Madame Victoire, qui a vraiment existé, enfin, c'était son surnom, et elle était vraiment payée par la couronne de France, par Louis XV. C'est une femme qui était vraiment chasseuse d'hommes, d'esclaves.
bien sûr. C'est un moment de documentation incroyable, puisque quand on écrit, la documentation, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il faut passer du temps à se documenter. Moi, c'est ma passion, c'est ma partie préférée de l'écriture. Et c'est vrai que la version numéro 1 de mon scénario, c'était un chasseur d'esclaves, un homme. Et Vijaya Tilok, qui est l'historienne mauricienne qui m'a aidé sur le film, me dit, il faut que tu lises le livre d'un prêtre créole mauricien qui s'appelle Amédée Nagapen. Parce que tu vas trouver des choses très fortes dedans. C'est une sorte de mine d'informations sur ce qu'était l'esclavage au milieu du 18e à l'île Maurice, qui s'appelait Île-de-France à l'époque, puisqu'elle appartenait à l'Empire colonial français. Et donc je lis ce livre, chapitre 3 du livre, le plus grand chasseur d'esclaves de l'époque, c'est une femme qui chasse avec ses deux fils, qui est périgourdine, qui s'appelle Michelle Christine Bull, mais qui devient une telle légende vivante qu'on lui donne le surnom de Madame la Victoire, puisque aucune de ses chasses aux esclaves n'est pour elle un échec, elle ne revient jamais bredouille, hein. elle arrive toujours à rattraper les marrons et les marronnes fugitifs. Et effectivement, comme vous le dites, elle est tellement performante que traditionnellement, c'est les planteurs, chaque planteur qui paye ses chasseurs d'esclaves. Et là, au bout d'un moment, le ministre des Finances de Louis XV lui donne un solde mensuel. Donc si vous voulez, c'est la seule fois de ma vie de scénariste, je suis scénariste depuis 20 ans, c'est la seule fois que j'ai un personnage comme ça, clé en main, qui sort des pages d'un livre. Et effectivement, je me suis tout de suite dit qu'il fallait absolument qu'elle soit dans le film.
Ah oui, puis quel... merveilleuse interprète que Camille Cotin pour le faire. C'est vrai qu'on la voit plus dans les rôles d'émotion, tout ça, mais là, d'une dureté et elle fait pas de quartier.
C'est ça. C'est ça. Camille, en fait, moi, comme tous les Français, je la suivais comme cinéphile dans 10% notamment, dans tous les films, tous les rôles qu'elle a brillamment interprétés. Et c'est vrai que je me suis toujours dit quand même sur cette comédienne qu'elle avait quand même un regard mystérieux, fascinant, ambigu, profond, assez indécidé. Il y a des gens qui disent que les films, c'est les documentaires sur le visage des acteurs. Moi, j'aime bien dire que les films, c'est les documentaires sur les regards des acteurs. Et c'est vrai que Camille, son regard m'a toujours inspiré. Du coup, quand j'ai eu cette révélation de documentation de l'existence de cette femme chasseuse d'esclaves, très vite, je me suis dit, ma meilleure option, c'est Camille Cotin. Elle a mis quelques temps à me dire oui. On prenait des cafés, elle me jaugeait, elle me regardait, elle voulait voir un peu ce que j'avais en tête pour elle, et à un moment, elle m'a dit oui, c'était incroyable.
Et un des deux fils, Vassili Schneider, qui est en pente montante. Alors, je suppose que le tournage a eu lieu bien avant Le Comte de Monte Cristo, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un jeune qui a commencé aussi dans la partie historique, puisqu'il était ici, il était venu présenter l'affaire Zelman. Et c'est vrai que voir une ascension et aussi la teneur du rôle que vous lui avez donné.
Bien sûr. J'adore ça, moi j'adore les acteurs, j'adore les actrices, évidemment, c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est de l'amour pour ces êtres si sensibles, si créatifs, si fascinants. Et c'est vrai que Vassili, ça fait partie de ces acteurs qui ont des physiques de films historiques. C'est-à-dire que Vassili, j'en parlais avec lui, on lui propose, dans les propositions sur sa table, les scénarios, c'est 80% de films historiques. Il a vraiment cette tête d'Apollon et qui est très intemporel, qui me ramène tout de suite dans l'imaginaire au passé. Et moi, je l'avais adoré dans Les Amandiers.
Ah oui, mais oui, bien sûr.
J'avais trouvé qu'il était bouleversant, notamment le monologue sur la mort de son frère. Il m'avait bouleversé dans ce film et je trouvais que de prendre un acteur avec quand même ce visage vraiment d'Apollon, c'est que vraiment Vassili, pour moi, il ressemble au dieu grec Apollon réellement, pour justement jouer un chasseur d'esclaves, je trouvais que dans ce choix, il y avait quelque chose d'intéressant. Puisque, évidemment, le mal peut avoir un très beau visage. Évidemment, on est tous capables du mal. On est tous capables de la banalité du mal. Du coup, de prendre Camille, une actrice extrêmement aimée par les Français, de prendre Vassili, un petit prince comme ça du cinéma français, je trouve ça intéressant. Puisque du coup, on ne les met pas à distance.
Eh bien non. Non, non, pas du tout.
C'est ça.
Non, puis même Benoît Magimel, qui joue le maître et qui est très, 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 très dur avec ses esclaves. Mmh. Alors, c'est l'époque. C'est le fait de devoir se faire respecter. C'est le fait aussi qu'il y a le gouvernement qui dit telle chose. Donc, il faut suivre les lois. Et c'est quand même fou que pour un premier marronnage, eh bien, c'est la fleur de lys. Et le deuxième, c'est couper les oreilles.
Bien sûr.
Et le troisième, c'est la mort.
Non, c'est la mort. C'est la mort.
C'est,
c'est... c'est le ça code fait noir. Froid dans le dos.
C'est le code noir, c'est une violence historique, institutionnelle de la France au XVIIe, XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas entendu encore dans un film français, non. Le code noir. Non. Donc pour moi, c'était important d'en parler, puisque c'est notre histoire de France. Et quand je dis notre, c'est à celle de à tous les Français. Donc c'est important, je pense, de parler de notre roman national. C'est important de parler des pages glorieuses comme des pages sombres. Souvent, les pages glorieuses sont aussi les pages sombres et vice-versa. C'est ça l'histoire d'un pays. Donc oui, c'était important pour moi de parler de tout ça.
Oui, et puis vous avez aussi Félix Lefebvre.
Bien sûr.
Qui est très fort parce que son rapport avec Massama, qui s'appelle Cicéron, qui lui a appris à lire, il lui a appris à écrire, et il a compris que derrière la personne qui servait, c'était avant tout un humain.
Évidemment.
Alors qu'on lui apprenait le contraire.
Évidemment, le contraire, donc précisément, parce que souvent c'est quelque chose que d'ailleurs moi je croyais avant de me documenter. Souvent on dit que les esclaves étaient considérés comme des animaux. Donc c'est le cas dans certaines acceptions, mais selon le code noir, c'est des meubles. Donc,
c'est ça.
C'est des biens meubles.
Des bêtes ou des meubles.
Des bêtes ou des meubles, voilà. C'est ça, c'est ce moment-là. Et du coup, oui, le personnage de Félix Lefebvre, brillant acteur également. J'ai eu la chance d'avoir une très belle génération de jeunes acteurs sur ce film. Ce qui est intéressant, c'est que le paradoxe, c'est que l'humanité flamboie, en fait. C'est que ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui sont tellement opprimés, qui sont tellement blessés dans leur corps, dans leur âme, que leur humanité, elle est évidente, elle est flamboyante, elle résiste. Donc peut-être parce qu'elle résiste, elle est encore plus visible. Et c'est vrai que le personnage de Félix Lefebvre, il voit ces hommes, ces femmes, et il sait évidemment que ce sont des humains.
Mais oui.
Mais de toute façon, le paradoxe, c'est dans le code noir, parce que dans le code noir, il y a un article qui les considère comme des meubles, et il y a un article dans la deuxième version du code noir qui insiste sur le fait de devoir les évangéliser. Donc on évangélise par un meuble.
Bah, oui.
Même dans le code noir, il y a des contradictions liées à l'humanité évidente de ces hommes.
Oui, ils sont très malins.
Ouais.
Et puis le fait de dire que ils sont considérés comme des moins que rien, et que c'est l'Église elle-même qui a dit ça, et donc on ne peut pas aller contre l'Église.
Oui, oui, oui.
C'est ce que dit à un moment le personnage de Camille Cotin.
Ça commence deux siècles avant mon film, la controverse de Valladolid, où effectivement, cette controverse où on doit décider, où l'Église catholique doit décider du sort des Indiens d'Amérique. Deux plus grands théologiens de l'époque qui s'affrontent pendant plusieurs jours, Las Casas, Sepúlveda. Et à la fin, il est décidé que les Indiens d'Amérique ont une âme, qu'ils sont nos frères et nos sœurs en Christ, donc ils peuvent être évangélisés. Mais la dernière phrase, c'est que les Noirs n'ont pas d'âme. Et c'est ce qui fonde la possibilité de l'esclavage.
Ouais. C'est complètement fou. Enfin, moi, je trouve que c'est vrai que je vous remercie d'avoir montré ça, d'avoir permis à nous et aux jeunes générations. Et je suppose qu'il va y avoir quelque chose de mis en place avec les scolaires.
Bien sûr.
Parce que c'est un film pour les scolaires.
Bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs, je parle du système
de
la religion catholique, et je n'oublie pas que l'un des plus grands abolitionnistes qui ait vécu dans notre pays, et je suis allé récemment au Panthéon voir les tombes de tous les grands hommes noirs et créoles, et il est avec eux, c'est l'abbé Grégoire.
Oui, bah oui.
Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les systèmes, les hommes, les femmes, enfin, tout ça est extrêmement complexe. Et évidemment, oui, sur les scolaires, c'est marrant que vous me parliez de ça parce que j'avais étudié la controverse de Valladolid, je me rappelle, au lycée. C'était il y a bien longtemps, mais on est totalement tourné vers eux. Je pense que l'histoire d'un pays permet de nous définir comme nation. Je pense que l'histoire, et c'est le but de mon film, permet de réparer, surtout pas de diviser, de réconcilier, de réparer. Je pense que c'est justement quand on met les choses sous le tapis que des abcès se créent. Donc le cinéma, il doit jouer son rôle.
Oui.
D'ouvrir les placards, de soulever les tapis, de faire des films avec nos mythes fondateurs. Et évidemment, mon premier objectif, c'est que le film touche la jeunesse, puisqu'elle a besoin de savoir d'où elle vient, comme nation, comme famille. Une nation, c'est une grande famille. Je pense que les jeunes ont besoin de savoir, de connaître notre histoire, et pour se construire et pour qu'un vivre ensemble soit possible.
Je voulais vous demander par rapport à des scènes que j'ai trouvées très difficiles, par rapport aux couleurs, par rapport à tout ce que vous mettez, la lumière, quand il y a des scènes dans la nuit, qui sont vraiment impressionnantes. Quelle a été celle la plus difficile? Parce qu'on en voit plusieurs dans la plantation, on voit dans la grotte, on voit aussi quand il y a la bataille, quand il y a la poursuite dans la nuit, et que avec les éclairs, qui est incroyable. Donc je voulais savoir.
La plus dure à faire ?
Ouais.
La plus dure à faire, évidemment, c'est la scène des éclairs.
Ah bah oui.
Puisqu'on devait, on devait finir à 23h.
Oh ouf.
Voilà. Parce que c'est une scène qu'on a tournée au milieu du film et on avait vu que Camille était très physique.
Oui.
Je vais pas spoiler les auditeurs, mais on poussait avec Camille jusqu'à 23h. Puisque le fait de courir, de sauter, de se plaquer, de se relever dans la boue avec un orage sur soi, vêtements d'époque qui sont alourdis par l'eau, mon Olivier Fornara, qui s'occupait physiquement de mes acteurs, le coach physique.
Ah, le coach physique, j'ai vu ça sur le générique.
Ouais, c'est ça, me disait que Camille, on a vu qu'elle était endurante, elle peut tenir jusqu'à 23h. D'accord. Je vais prendre juste 2 minutes pour vous raconter parce que ça vaut le coup.
Ah, mais il faut me raconter.
Voilà, ça montre ce qui est Camille Cotin. On doit finir jusqu'à 23h, sauf que nous, on crée des éclairs et on crée cet orage. Donc c'est artificiellement créé. Et en fait, rien ne marche. Donc, de 18h à 23h, Camille enchaîne les prises, courir, plaquer, tenir son arbre, avancer sous la pluie, donc le froid, l'eau qui alourdit le vêtement, et on n'en a quasiment pas une de bonne à 23h.
Aïe.
C'est-à-dire que c'est une des séquences les plus importantes du film, et on n'a pas de séquence. Donc je vais voir Camille, je dis Camille, écoute, donne-moi une heure. Une heure de plus, on finit à minuit, je sais que t'es crevé, mais donne-moi une heure, elle me dit, t'as pas ce qu'il faut, on continue. 1h du matin, pareil. 2h du matin, 3h du matin, mon producteur vient me voir et me dit « on va perdre Camille ». Là, tu fais n'importe quoi. Nicolas Dumont, c'est un producteur génial. Ah bah oui. Sans lui, j'aurais pu rien faire. Mais là, ce soir-là, il est vraiment en colère contre moi. Il me dit « on va perdre Camille, elle va peut-être rentrer à Paris. C'est très grave ce que tu fais ». Je dis « Nicolas, c'est une des séquences les plus importantes du film. On n'a pas la séquence. Laisse-moi aller voir Camille, on va voir ce qu'elle dit ». Je vais voir Camille, elle a 4 couvertures sur elle et 3 personnes qui la passent au sèche-cheveux.
Ah bah oui.
Et elle tremble de tout son corps et elle est livide. Je dis Camille, il est 3h du matin, je sais qu'on va finir à 23h. Déjà 23h c'était beaucoup. J'ai pas ce qu'il me faut. Est-ce que tu me suis ? Elle me dit, est-ce que tu as ce qu'il faut ? Je dis non, elle me dit, on y va. Wow. 4h du matin. Je vais voir Camille à 4h du matin, je dis, on commence à avoir des trucs. Et je vois dans ses yeux, les rares moments dans notre vie qu'on a tous connus, où la fatigue voile le regard. Elle a plus de regard. Elle a plus de cerveau. Mais je lui dis, Camille, est-ce que tu continues ? Elle me dit oui. Et on finit cette séquence à 5h50. C'est une séquence nocturne. Pas parce que Camille me dit non, parce que le jour se lève. Et le jour se lève sur l'île Maurice, et je vois la Jeep qui ramène Camille à son hôtel, je vois la silhouette de Camille à l'arrière, et je me dis, mais quelle actrice. Voilà, c'est Camille Cotin.
Ouais, bravo.
Bah oui, oui.
C'est impressionnant. Merci de me l'avoir raconté.
Merci à vous.
Quel est le message pour vous ? Pour ce film. Moi, je sens que c'est vraiment ce truc de dire il ne faut pas oublier le passé, il faut vivre avec le passé et apprendre de nos erreurs et faire en sorte que ça n'arrive plus.
C'est totalement ça. J'ai fait des études littéraires en prépa. Mon prof d'histoire me disait évidemment, le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Le pire peut se reproduire comme le meilleur. Et il ne faut surtout pas mettre cette histoire trop loin de nous. Là, on vit une époque de montée des nationalismes. La guerre est possible, le pire est possible. Et effectivement, on a tellement peu adressé, on a tellement peu traité politiquement et artistiquement ces histoires en France. C'est le moment de la traiter. Et parce qu'on est fort, on la traite tous ensemble. Parfois, j'ai l'impression que le fait de se dire qu'on va reconnaître des pages sombres, c'est affaiblir la France. Non, c'est le contraire. Si on est fort collectivement, on regarde notre passé droit dans les yeux et on l'affronte et ça nous permet de qu'il ne se reproduise pas, comme vous l'avez dit.
Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce film.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir risqué de le faire. Et donc oui, le film vient de sortir au cinéma ce mercredi. On va inviter les gens à venir voir ce film, absolument, qui est vraiment... un pan de notre histoire.
Oui, c'est notre histoire et c'est aussi, je le fais par l'épique. Moi, j'aime le cinéma quand il nous procure des émotions primaires, quand il nous met la chair de poule, quand il nous fait pleurer, quand il nous fait rêver. Et pour moi, l'histoire des marrons et des marronnes est susceptible de nous élever, de nous transcender. Donc, j'attends le public nombreux et j'espère que le film va susciter le débat.
Oh là 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 là, mais c'était vraiment très très fort. C'était... Oui, je sortais du film, donc j'avais encore ces images dans la tête. Je voyais tout, je voyais ces poursuites, je voyais ces forêts à perte de vue, je voyais ces esclaves qui couraient dans tous les sens. Je ressentais encore toutes les émotions du film. Et c'est vrai que quand tu entends Simon Moutérou nous confier une anecdote par rapport à ce tournage de cette scène avec les éclairs et la fabuleuse interprétation de Camille Cotin, eh ben, tu peux te dire bravo, chapeau bas à l'actrice. C'est vrai que Camille Cotin, eh bien, on la voit dans énormément de films, mais là, elle va vous épater à jouer Madame Victoire, un rôle très très difficile parce que un personnage du passé. Et oui, cette femme a vraiment existé, a chassé les marrons et les marronneuses. C'est un truc de fou. Les marronneurs et les marronneuses avaient, devaient se frotter à elle et elle a ramené toujours, toujours les esclaves à leur plantation pour être punis. Et c'est vraiment incroyable l'interprétation qu'a Camille Cotin et tous les autres, hein, Ibrahima Magbey qui joue Massamba est aussi très très fort dans son interprétation. Il y a un casting de feu de Dieu. Non mais sérieux, quand vous voyez tous les personnages et tous ceux qui travaillent sur le casting, qui ont fait un boulot fabuleux. Alors je vais citer bien sûr Camille Cotin, donc Madame la Victoire, Ibrahima Magéché qui joue Massamba, Anna Tiendoum qui joue Mati, sa fille, Benoît Magimel qui joue Eugène, et oui, le maître, le grand maître Eugène Larsenet, et puis son fils Honoré Larsenet, qui est joué par Félix Lefebvre. D'ailleurs, vous entendrez bientôt son interview. Et oui, il était présent au Festival international du film de fiction historique. Et puis, vous avez aussi l'étoile montante, Vassili Schneider, qui joue le rôle de Baptiste, Lancelot Coursera, qui joue le rôle de Joseph, Lassar Minungo, qui joue le rôle de Rado, Marc Babet, René Magon de la Villebague, et bien d'autres qui ont fait... Qui font partie de cette distribution. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très très bien interprété. Tous les rôles, même les seconds rôles, sont au cordeau. Et chapeau bas au scénariste, chapeau bas au réalisateur, qui n'est qu'une seule et même personne, Simon Moutérou. Oui, ce film a vocation d'aller rencontrer les scolaires, l'a déjà fait au Festival international du film de fiction historique, va partir un peu partout. Donc n'hésitez pas à vous rendre au cinéma pour voir ni chaîne ni maître et vous m'en direz des nouvelles. C'était Chaud Devant, Festival international du film de fiction historique avec Ni Chaîne Ni Maître et Simon Moutérou. Merci beaucoup Simon pour cette interview. Merci d'être venu au festival, d'avoir partagé avec le public, avec les scolaires. Et courez voir Ni Chaîne Ni Maître. Il est au Pathé Wilson, il est un peu partout en France, donc n'hésitez surtout pas. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black.